Regard de femmes, les mardis de l'été 2019 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.
Être femme en terre d'islam, voici l'intervention d'Annie Laurent, journaliste, écrivaine, politologue, spécialiste de l'islam, une intervention enregistrée en l'église de Saint-Jean-de-Luz le 20 août 2019, précédée du mot d'accueil de l'abbé Lionel Landard.
Chers amis, bonsoir. Et ce soir, nous avons avec nous Madame Annie Laurent. Vous avez, Madame, une maîtrise en droit international, un doctorat d'État en sciences politiques, pour une thèse sur le thème « Le Liban et son voisinage ». Vous avez participé à l'édition du périodique Libanoscopie. Vous avez collaboré avec diverses revues profanes ou catholiques. Vous avez donné beaucoup de sessions, de conférences sur l'islam, le Proche-Orient, le Liban, les chrétiens d'Orient, les révoltes arabes, le dialogue interreligieux. Vous êtes professeur de géopolitique de l'islam à l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon. Vous avez donné beaucoup de conférences sur l'islam et les diverses approches de l'islam. Vous avez créé l'association Clarifier, dont le but est d'apporter des éclairages pédagogiques sur l'islam dans ses divers aspects. Vous êtes également, et nous saluons cette dignité avec beaucoup de respect, expert nommé par Sa Sainteté Benoît XVI au synode spécial des évêques pour le Moyen-Orient qui se déroulait à Rome du 10 au 24 octobre 2010, il y a 9 ans. Vous avez écrit de nombreux livres, « Guerre secrète au Liban » chez Gallimard, « Vivre avec l'islam » point d'interrogation, « Pour l'amour de l'Église » sont des entretiens avec l'abbé Christian Lafargue, « Dieu rêve d'unité » entretien avec Mgr Fitzgerald, nonce apostolique au Caire, chez Bayard, « L'Europe malade de la Turquie », vous avez également écrit « Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître ?» C'est un livre qui est à vendre aujourd'hui ici, il n'y en a que 2 exemplaires. Et également « L'islam » pour tous ceux qui veulent en parler mais ne le connaissent pas encore chez Arthège. Ce livre est présenté à la vente ce soir, il y a 15 exemplaires. Nous avons grand plaisir, et j'ai grand plaisir au nom de ma paroisse et au nom de toutes les personnes qui sont ici, et je peux vous dire qu'elles sont nombreuses ce soir pour vous écouter, je crois que vous avez la palme. Vous allez nous parler d'un sujet subtil et complexe à la fois, être femme en terre d'islam. Merci beaucoup, Madame Laurent.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Curé. J'avoue que je ne m'attendais pas à avoir une assemblée aussi considérable. Merci de vous être déplacé, surtout qu'il fait beau. Alors voilà, être femme en terre d'islam, c'est tout un programme, hein. Je dois dire d'emblée que ce sujet, le regard que l'islam porte sur la femme, c'est un élément essentiel dans le malentendu qui oppose la culture musulmane à la culture occidentale héritière du christianisme. Quand j'ai commencé à travailler, il y a bien longtemps maintenant, la question de l'islam, et en particulier de la femme, j'ai lu une thèse qui m'a impressionnée. C'est un Tunisien qui l'a soutenue à Paris sous la direction d'un philosophe académicien. Ce Tunisien, il s'appelle Abdelwahab Bouhdiba, un Tunisien, non, et il a intitulé sa thèse « La prééminence masculine est fondamentale en islam ». Vous voyez, bon, d'emblée, il pose le problème. Et alors, c'est vrai que vu de l'extérieur, vu de chez nous en tout cas, la condition de la femme dans les pays ou les sociétés qui se réclament de l'islam ne semble pas très enviable. On n'a pas trop envie de les imiter. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qu'il en est exactement, mais je voudrais mettre en garde aussi contre une approche qui serait trop marquée par nos conditionnements actuels. Bon, ça, j'y reviendrai dans la conclusion, hein, mais c'est important. Moi, je ne suis pas militante féministe. Je suis femme, heureuse d'être femme, même très heureuse d'être femme, mais pas féministe, au sens où il faut tout démonter, hein, voilà. Alors, j'ai prévu deux parties dans mon exposé. La première sera la femme selon la volonté de Dieu dans le Coran, et la deuxième, le statut juridique et social de la femme musulmane. Donc, nous commençons par la femme selon la volonté de Dieu dans le Coran. Alors, c'est-à-dire, quelle est la place de la musulmane dans le projet de création de Dieu, déjà, on va commencer. Quelle est son identité? Et aussi, est-ce que la femme a une, selon le Coran toujours, est-ce qu'elle a une vocation spirituelle? Alors, d'abord, il est évident, c'est clair dans le Coran, que l'origine de l'homme et de la femme, elle est commune. Je vous cite les versets coraniques auxquels je me réfère. Est-ce que vous voulez d'abord que je vous donne les références à chaque fois? C'est comme vous voulez, hein. Ça risque d'alourdir, hein. Bon, d'accord. Faites-moi confiance, en tout cas. Et puis, vous avez tout ça dans mes livres aussi. Bon. Alors, dans Origine commune de l'homme et de la femme dans le Coran. C'est Dieu qui parle aux hommes. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, de celui-ci, a créé son épouse et qui fit naître de leur union un grand nombre d'hommes et de femmes. Voilà. Mais par ailleurs, il faut le noter, le Coran affirme et justifie la supériorité de l'homme sur la femme. C'est une volonté divine, selon le Coran, bien sûr. Pas de notre point de vue. Je cite encore le Coran. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-ci au-dessus de celles-là. On a l'impression que Dieu a une préférence pour l'homme. Il s'agit donc d'une inégalité constitutive qui instaure une différence de dignité entre l'homme et la femme et une subordination certaine de la femme à l'homme. Alors bien sûr, vous savez que l'islam est apparu au 7e siècle, on peut toujours y voir le reflet de l'héritage patriarcal des sociétés arabes de l'époque. Mais ça ne suffit pas, puisque du point de vue musulman, tout ce qui est dans le Coran résulte d'une volonté divine, donc immuable. Là, je dis un mot sur le statut du Coran pour bien vous aider à comprendre. Les musulmans ont, depuis le 10e siècle, fixé le Coran comme un livre incréé. Ça veut dire que seul Dieu est l'auteur du Coran. L'homme n'intervient pas. Vous voyez, quand on compare avec la Bible n'est pas un livre incréé. Ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. D'ailleurs, on voit bien la différence de style, il y a les époques, etc., avec l'inspiration de Dieu, bien entendu. Mais nous tenons les deux aspects. Ce qui laisse à l'Église une certaine liberté, vous voyez, et c'est vraiment important. Le Coran incréé, il est fixé à tout jamais, il est donc immuable, et c'est seul Dieu qui en est l'auteur. Alors, concernant la question, je vais citer un autre auteur, c'est un poète syrien, Adonis, il s'appelle Adonis, comme la divinité païenne, vous savez. Il a écrit des choses très très fortes, il a écrit plusieurs livres en France d'ailleurs. Concernant cette question du regard porté par le Coran sur la femme, voilà cette phrase-là que j'ai extraite. « L'islam assujettit la femme et fixe cette servitude dans le texte. » Le texte avec un T majuscule, donc c'est le Coran. Vous voyez, c'est comme dans bien d'autres domaines, les relations entre musulmans et non-musulmans, les relations entre hommes libres et esclaves, eh bien, l'islam se présente ici comme un système inégalitaire. On dirait donc que le Coran montre que Dieu a des préférences parmi ses créatures humaines, bien que, il faut aussi le souligner, l'égalité ontologique entre les deux découle d'une création où Dieu donne à chacun son souffle de vie. Dieu a créé l'homme et la femme, à chacun il donne son souffle de vie. Donc ça, c'est la nature, si vous voulez. Mais n'empêche que Dieu, dans le Coran, instaure une différence de rang, de degré, de dignité. Et c'est donc la volonté divine. Ça, vous voyez, il y a une chose intéressante à souligner, c'est que le Coran ignore complètement la réalité du péché originel. Nous savons que ce qui ne va pas dans le monde, notamment dans les rapports entre l'homme et la femme, et bien d'autres choses encore, bien sûr, tout ça ne découle pas d'un plan de Dieu, d'une volonté divine, n'est-ce pas? Mais c'est la conséquence du péché originel. Et la Bible est très explicite à ce sujet. Alors, il y a dans le Coran un récit coranique, mais qui est beaucoup moins précis, est moins développé que dans la Bible, et en plus il est éparpillé dans diverses parties du Coran. Il n'y a pas d'ordre dans le Coran, vous voyez, c'est pas facile de travailler sur ce livre. Et alors, dans le récit coranique de la création, on voit la femme créée à partir de l'homme, mais elle n'est pas son égale, elle n'est pas son aide, vous savez, ce mot qui se trouve dans la Genèse. Et puis, on ne lit pas cette précision qui, à mon avis, est capitale, où il est dit dans la Bible, donc, que homme et femme, il les créa. Dieu a créé l'homme, homme et femme, d'accord ? Et puis on ne voit pas non plus, ce qui m'émeut beaucoup quand j'y pense, le cri de reconnaissance et d'émerveillement d'Adam lorsqu'il découvre la femme que Dieu a mis à ses côtés. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est simple, vous me direz, mais n'empêche que si on approfondit, on voit que les conséquences que ça peut avoir. Donc, en aucun passage du Coran, on ne découvre l'alliance fondatrice des origines que l'Ancien Testament met si bien en évidence et qui fait de la femme une véritable compagne pour l'homme. Mais, cela dit, il faut le noter aussi, ça peut servir dans le dialogue avec les musulmans, le premier couple est montré comme monogame. J'y reviendrai parce que je vais bien sûr vous parler du mariage, hein. Alors, la préférence de Dieu, du Dieu du Coran, pour les hommes, elle se manifeste déjà d'un point de vue formel, si vous voulez, il faut le noter ça aussi, par la marginalisation des femmes dans le Coran. Si vous voulez, à l'exception notable et mystérieuse, je dois dire, de Marie, hein, la mère de notre mari, aucune des femmes dont il est question dans le Coran ne sont désignées par leur nom. Je vous donne quelques exemples. On parle de la mère de Moïse, on parle des femmes du prophète, c'est Mahomet, le prophète pour les musulmans. Même Ève, la première femme, n'est pas désignée par son nom. On dit la femme d'Adam. Vous voyez, seule Marie échappe à cette règle. Et puis, il y a quand même des femmes qui ont beaucoup compté dans la vie et la mission de Mahomet. Eh bien, elles sont soit ignorées par le Coran, soit pas nommées. Quand il en est question, on ne donne pas leur nom. C'est la tradition musulmane qui nous a transmis leur existence et leur nom. Je donne quelques exemples aussi, pour être concrète. La mère de Mahomet, quand même la mère de quelqu'un compte beaucoup dans sa vie, c'est Amina. Khadija, alors Khadija, elle a une grande importance puisque c'est la première épouse de Mahomet. Elle l'avait d'abord embauché, elle avait une agence de commerce, on dirait aujourd'hui. Et il était devenu son intendant et puis ensuite elle l'a épousé. Elle était veuve, deux fois veuve. Et cette Khadija a aidé Mahomet à s'enrichir parce qu'il n'était pas très aisé. Et puis, lorsqu'elle l'a épousé, elle a soutenu complètement sa mission prophétique. Vous voyez, donc Khadija, elle a un rôle décisif dans la vocation et dans la carrière de Mahomet. Il y en a une autre qui est également très importante, c'est Aïcha. Aïcha, c'était l'épouse préférée de Mahomet, parce qu'après la mort de Khadija, il devient polygame. Aïcha a eu une influence considérable. Vous n'imaginez pas le nombre de décisions qu'elle lui a inspirées. Et elle est même d'ailleurs désignée, pas dans le Coran, mais dans la tradition, elle est la mère des croyants, c'est dire. Mais son nom n'apparaît pas dans le Coran non plus. Et puis, je voudrais dire aussi Fatima, je vais vous dire pourquoi j'évoque ce nom. Fatima, c'était une des filles de Mahomet. Et elle avait épousé le cousin de Mahomet, pardon, Ali. C'était sa fille elle était épouse du cousin de Mahomet, Ali, excusez-moi. Je dis pourquoi elle a tant d'importance. Fatima, c'est un prénom qui est énormément donné aux filles dans l'islam, et parce que Fatima, elle est honorée. Mais aussi, ça c'est intéressant, je crois, pour nous, c'est que les musulmans d'Iran, les chiites, après la révolution iranienne en 1979, on dit qu'à Fatima, au Portugal, ce n'était pas la Vierge Marie qui était apparue aux voyants, mais Fatima, vous voyez. Il y a eu des bouleversements incroyables, le Vatican a dû intervenir pour dire « Mais non, c'est bien Marie que vous allez rencontrer à Fatima, mais vous êtes les bienvenus, etc. » Mais bon, donc Fatima a beaucoup d'importance. Alors, Marie, donc, c'est la seule qui échappe à cette règle. C'est la seule dont le nom est mentionné dans le Coran. Son nom apparaît 34 fois et il sert même d'intitulé à une sourate. Une sourate, c'est l'équivalent d'un chapitre. La 19e sourate s'intitule Maryam. Alors, Maryam en arabe, pas Myriam. Myriam, c'est en hébreu, vous savez. Alors, ça permet bien sûr à certains musulmans d'apostropher les chrétiens, je l'ai entendu parfois chez certains d'entre eux, en leur disant « Marie, eh bien, écoutez, elle est plus souvent citée dans le Coran que dans les évangiles. » Pour nous, ce n'est pas ça qui compte, bien sûr, mais bon. Et elle est valorisée. Alors, je vous cite un verset très beau. « Les anges dirent, ô Marie, Dieu t'a purifiée et t'a élue au-dessus des femmes des mondes. » C'est très beau, ça. Si vous voulez, le Coran a un récit, même deux récits de ce que nous appelons l'annonciation. Il y a des divergences fondamentales, mais n'empêche qu'il y a des anges non identifiés qui viennent la voir. On ne sait pas où ni quand non plus. Il n'est pas question de Nazareth. Et ils lui disent ça. « Dieu t'a purifiée et t'a élue au-dessus des femmes des mondes. » Et puis, elle est présentée en modèle aux musulmans. C'est Dieu qui parle là, pardon. Nous lui avons insufflé de notre esprit. Elle déclara véridique les paroles de son Seigneur et ses livres. Je vais vous dire un petit mot sur les livres. Elle était au nombre de ceux qui craignent Dieu. Quand le Coran dit les livres, il s'agit en fait de la Torah, de l'Évangile et du Coran. Pour les musulmans, c'est toujours le même texte, voyez. Mais Moïse est venu dans le monde apporter la Torah. Le Coran dit que les Juifs ont falsifié la Torah, d'où l'envoi par Dieu d'un autre prophète, Jésus, qui n'est que prophète pour les musulmans, avec l'Évangile pour rectifier les erreurs introduites dans la Torah, et puis pour annoncer Mahomet aussi. Jésus avait la mission d'annoncer Mahomet. Et puis, comme à leur tour, les chrétiens sont accusés d'avoir falsifié l'Évangile avec la Trinité, la divinité de Jésus-Christ et bien d'autres choses encore, eh bien, Dieu envoie finalement Mahomet comme le dernier prophète, avec le Coran, donc, qui est en fait le vrai livre depuis l'origine. Voilà. Donc, je répète le verset du Coran. C'est Dieu qui parle. Nous lui avons insufflé de notre esprit à Marie. Elle déclara véridique les paroles de son Seigneur et ses livres. Elle était au nombre de ceux qui craignent Dieu. Et enfin, je ne vais pas trop m'étendre sur Marie, bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps. Sa virginité, sa maternité virginale et la conception miraculeuse de son fils Jésus sont attestées aussi dans le Coran. En ces termes-là. Et celle qui était restée vierge, nous avons fait d'elle et de son fils un signe pour les mondes. C'est quand même pas rien, hein. C'est pour ça que c'est important. Mais il faut quand même noter que la Marie coranique est une Marie incomplète et comme inachevée. Déjà, sa généalogie est incertaine. Le Coran la présente à la fois, je dis bien à la fois, comme sœur de Moïse et d'Aaron, et comme mère de Jésus. Vous voyez, Moïse et Aaron avaient bien une sœur qui s'appelait Myriam. Mais il y a 13 siècles qui séparent les deux maris. Voilà. Alors Joseph, son époux, n'apparaît pas dans le Coran. Après la naissance de Jésus, alors Jésus, dans le Coran, on raconte qu'il naît au pied d'un palmier. Mais où ? Il n'est pas question de Bethléem, vous voyez. Et bien, après la naissance de Jésus, elle disparaît, Marie. Et puis, une chose très importante, une différence doctrinale avec la vision chrétienne, c'est que le Coran ignore l'immaculée conception de Marie. Ce qui est normal, puisque je vous l'ai dit, il n'y a pas le péché originel. Donc, l'immaculée conception de Marie, elle est directement liée au projet de rédemption de Dieu. Hein, voilà. Et, alors, elle est purifiée, c'est vrai, comme je l'ai dit, mais ça s'arrête là. Enfin, quoi qu'il en soit, je parle de relative préservation de Marie. C'est tout de même étonnant quand on sait que le Jésus coranique est décrit comme un prophète de moindre importance que Mahomet. De plus, la vocation de la dévotion à Marie, elle n'est pas orthodoxe, elle n'est pas normalement demandée à tous les musulmans. Il n'y a pas d'intercession dans l'islam, vous voyez, on ne prie que Dieu seul. Et malgré tout, cette dévotion mariale, elle se développe comme jamais dans tous les sanctuaires dédiés à Marie. Je crois pouvoir dire que j'ai visité tous les sanctuaires du bassin méditerranéen, vous voyez, de l'Afrique du Nord à Marseille, où j'habite aussi, bien sûr, jusqu'au Liban, en Égypte, en Syrie, en Turquie. Eh bien, c'est inouï le nombre de musulmans qu'on y voit, qui viennent demander des grâces, et Marie les exauce parfois, bien sûr. Et on voit des ex-voto, d'ailleurs, qui témoignent de leur reconnaissance, vous voyez, envers Marie. Donc, il y a ce phénomène qui existait déjà, mais qui se développe beaucoup. Et pour moi, c'est un signe de notre temps, si vous voulez. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, il est vrai, qui vont prier Marie. Peut-être qu'elles trouvent là un exutoire à leur frustration, parce que vous allez voir, hein, c'est pas non plus très gai d'être femme en islam. En tout cas, pour moi, j'y vois un signe, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la place privilégiée donnée par le Coran à Marie, une promesse cachée pour les musulmans et un signe d'espérance pour nous, les chrétiens? Autrement dit, est-ce que Marie, cette Marie-là, elle n'est pas dédiée, si vous voulez, à accroître la découverte du vrai Jésus, voyez, par cette dévotion qu'ils ont, beaucoup d'entre eux, mais pas tous non plus. Hein, j'en connais qui refusent absolument ça. Et non, enfin, en tout cas, moi, ça nourrit mon espérance que de plus en plus de musulmans découvrent la vérité sur notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce sujet vous intéresse, j'ai écrit un très long article, très développé, sur le plan doctrinal et sur le plan pastoral, je prends les deux aspects. Il est sur le site de mon association, Clarifiée. Vous allez dans Google, vous tapez Association Clarifiée, et vous le trouvez. Il est paru l'hiver dernier, vous voyez, dans une revue de spiritualité française. Voyons maintenant, est-ce que la femme musulmane a une vocation spirituelle ? Il y a un double aspect à cette question. D'abord les devoirs religieux, et puis la destinée ultime. D'abord, concernant la religion, l'homme et la femme ont les mêmes devoirs et les mêmes obligations. Tous deux sont tenus de suivre ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam. Je les énumère, ce n'est pas le dogme, hein, c'est les rites religieux. Donc la profession de foi, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mahomet et son prophète. La prière rituelle, 5 fois par jour. Le jeûne du ramadan, l'aumône légale que l'on doit payer pendant le ramadan, en plus de l'impôt normal. Hein, et puis le pèlerinage à la Mecque. Mais la femme n'est jamais obligée d'aller prier à la mosquée. Ça. Elle peut y aller, mais on ne l'oblige pas. Si elle y va, elle ne peut en aucun cas se mêler à l'assemblée des hommes. Elle doit alors se placer dans un espace clos par une tenture, oui, un rideau, qui lui est réservé à l'arrière de l'édifice. Je sais bien qu'à une époque aussi, chez nous, il y a eu, mais pas de manière fermée, enfin, à moins qu'ici, je ne sais pas, je ne connais pas assez le Pays basque, mais souvent, il y avait donc, d'un côté dans l'église les hommes, d'un côté les femmes. Mais ce n'est pas la même chose. Hein. Puis vous comprendrez mieux après, je pense. De plus, la femme ne peut en aucun cas exercer la fonction d'imam. Alors attention, l'imam, c'est pas un prêtre. Hein. Il y a pas de sacrement dans l'islam. Il y a pas de prêtre. Il y a pas de sacerdoce. Pour avoir les sacrements, on passe par le sacerdoce. Le mot imam, il veut dire être à l'avant d'eux. C'est celui qui préside la prière. Il n'y a pas besoin de faire des séminaires, d'être ordonné et tout ça pour être imam. Mais la femme ne peut pas exercer cette fonction-là. Maintenant, il y a quand même quelques petits progrès timides. Enfin, progrès si on veut. Il y a des pays en Europe du Nord où on voit des femmes qui se mettent à présider la prière. Alors, il y a aussi le cas du Maroc qu'on pourrait citer. Le roi du Maroc, il y a quelques années, on lui dit toujours, mais enfin, vos femmes, comment vous les traitez, et tout ça. Alors, il a décidé de créer un statut spécial pour la femme. Elle est imam, mais pas pour la prière. En fait, imam, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle peut donner un enseignement sur la religion, vous voyez, et à des femmes. Voilà. Et puis alors, comme l'homme, la femme qui va prier, elle est tenue d'accomplir des ablutions, bien sûr. Il faut savoir que l'islam accorde une grande importance aux notions de pureté et d'impureté légale. C'est pourquoi l'accès à la mosquée est interdit à la femme dans des périodes considérées comme impures, le moment des règles ou après l'accouchement. Vous voyez, là, c'est intéressant, on retrouve des emprunts à la loi mosaïque. Il y en a beaucoup dans le Coran d'emprunts à la loi mosaïque. Et puis alors, il y a aussi une pratique, c'est qu'un homme qui va prier à la mosquée, imaginons qu'il ne fasse que serrer la main d'une femme, eh bien, sa prière n'est pas valide. Vous voyez, ça va loin. Donc, ce que je viens de dire, l'exemple que je viens de donner, montre une certaine méfiance vis-à-vis des femmes. Mais j'y reviendrai, bien sûr, avec la question de la femme dans la société. Alors maintenant, voyons, est-ce que la femme a une vocation spirituelle ? Autrement dit, est-elle, comme l'homme, appelée à la vie éternelle ? En fait, l'homme et la femme sont placés à égalité sur ce plan-là. On se trompe beaucoup à ce sujet en Occident. Voilà, je vous cite d'abord ce verset. Certes, nous sommes à Dieu, c'est les femmes qui disent, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournerons, donc, comme les hommes. Donc la femme n'est pas exclue du paradis, paradis comme il est envisagé dans le Coran. C'est vrai qu'on ironise beaucoup la question du paradis dans l'islam. Il est exact que de nombreux versets, vraiment nombreux, racontent tout ce qui se passe là-haut. C'est un paradis matériel et non pas un paradis surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel dans l'islam, ni sur terre, ni dans l'au-delà. Vous voyez, il n'y a pas la vision béatifique, par exemple. Alors, il y a des descriptions très complaisantes sur les faveurs dont les hommes bénéficieront. Le Coran ne parle que des faveurs qui attendent les hommes. On connaît bien l'histoire des soi-disant vierges, mais en fait le mot exact c'est houris, les houris, H-O-U-R-I-E-S. Alors moi je connais un savant en islamologie et surtout en langue sémitique, il a découvert que le mot houris n'a rien à voir avec des vierges, ce sont des fruits mûrs. Alors, on peut toujours faire une analogie si on veut, mais enfin. Voilà. Alors donc, pour les femmes, elles ont accès au paradis, mais on ne sait pas ce qui les attend là-haut. Oui, je veux citer encore ces deux versets. C'est Dieu qui parle là. « Certes, nous assurerons une vie agréable à tout croyant, homme ou femme, qui fait le bien. » Qui fait le bien, c'est-à-dire qui accomplit bien l'islam. Et puis celui-ci. « Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins où coulent les ruisseaux. Ils y demeureront immortels. » Vous voyez là, les ruisseaux, c'est encore le côté terrestre, quoi. Oui, je voudrais aussi ajouter un propos attribué à Mahomet. Dans l'islam, il y a le Coran et la Sunna. Ce qu'on appelle la Sunna, c'est la tradition. C'est un immense recueil, mais vraiment immense, qui rassemble tout ce que Mahomet a dit, a fait en telle ou telle circonstance. Ce sont des récits. Et ils sont normatifs, c'est-à-dire ils complètent et ils éclairent le Coran, vous voyez, parce que le Coran ne dit pas tout non plus. Alors, dans la Sunna, la tradition, il y a donc ces récits, on en trouve un qui dit celui-ci. Mahomet est réputé avoir effectué un voyage nocturne. Il serait allé jusque le plus près possible du ciel, sans y entrer, bien sûr. Alors, à son retour de ce voyage nocturne, on ne sait pas si c'est physique, ce voyage, ou si c'est un songe, mais peu importe, pour notre propos là. Alors, il aurait dit à ses compagnons, « J'ai vu l'enfer, et j'ai remarqué que la majorité de ses hôtes étaient des femmes. » Voilà. Mais, dans une autre phrase attribuée à Mahomet dans la Sunna, on lit ceci aussi, « Le paradis est sous le pied des mères. » Tout ça, c'est pour encourager la maternité. Donc, plus la femme a d'enfants, je vais y revenir, plus elle est honorée. Voilà, bon. Alors, j'en viens maintenant au statut juridique et social de la musulmane. Ça va être un peu plus long, là. Sur ces questions, le Coran fournit un certain nombre de prescriptions qui sont complétées donc par la Sunna, mais aussi par la jurisprudence. J'ai évoqué le Coran et la Sunna, ce sont les deux sources principales de ce qu'on appelle la charia, hein, le droit islamique. Alors, voyons le mariage, d'abord. Ça, c'est très important. L'état normal et souhaitable de la femme en islam, c'est le mariage. L'islam désapprouve le célibat. Si le célibat est voulu, il apparaît contre nature. S'il est subi, il peut être le signe d'une malédiction divine, voyez. Donc, évidemment, l'islam ignore le célibat consacré, pour l'homme comme pour la femme. Alors, on peut dire, mais moi, il m'est arrivé de dire à des musulmans, mais Jésus était célibataire. Oui, bah alors ils ont la parade. Ils disent, oui, mais d'accord, mais on nous dit dans la tradition, dans la Sunna, que quand Jésus reviendra à la fin des temps pour confirmer l'islam à la face du monde, eh bien, il se mariera, parce que c'est pas normal qu'il soit célibataire, voyez. Et alors, aujourd'hui, une histoire qu'on dit beaucoup au Proche-Orient. On dit quand Jésus reviendra, le Jésus coranique, hein, eh bien, il se mariera avec une Palestinienne. C'est pour montrer l'importance de la... voilà. Et alors, donc, en général, vous voyez, le respect du vœu de chasteté des religieux chrétiens, aux yeux des musulmans, ça paraît une chose impossible. C'est contre nature, c'est ce qu'ils nous disent. Moi, j'ai eu des discussions déjà avec des musulmans, c'est pas possible. Alors, bien sûr, on admire, surtout les religieuses, elles sont dignes d'admiration aux yeux des musulmans, mais pas parce qu'elles sont chastes ou parce qu'elles se sont données à Dieu, mais c'est parce qu'elles sont dévouées, elles pratiquent l'abnégation, hein, la gratuité des services, ça force l'admiration. Alors, je reviens à la question du mariage. Dans la tradition, dans la sunna, on voit une phrase de Mahomet qui aurait dit « Celui qui se marie accomplit la moitié de la religion. » Celui qui se marie accomplit la moitié de la religion. Donc, Mahomet a fait du mariage un devoir religieux. Mais attention à ne pas confondre devoir religieux avec un sacrement. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de sacrement dans l'islam. Hein, il y a pas, le Coran ignore tout de la grâce divine aussi, qui est donnée par le sacrement. Donc, la définition précise du mariage, ben, pour nous, c'est pas très joyeux, je dirais. C'est le moyen de rendre licites les relations sexuelles entre hommes et femmes. Vous voyez? C'est ça, la définition du mariage en islam. Donc, la dimension juridique est primordiale. Les époux se lient par un contrat bilatéral enregistré par deux notaires témoins, c'est la formule, et transmis à l'état civil. En principe, il n'est pas prévu de cérémonie religieuse, mais la conclusion du contrat peut très bien se dérouler dans une mosquée. C'est vrai que de plus en plus, on voit que les mariages sont conclus à la mosquée. Je pense qu'il y a un peu un mimétisme avec la tradition chrétienne, mais peu importe. Maintenant, voyons quelle est la part de liberté accordée à la femme dans la conclusion du mariage. Vous savez, déjà, il y a un principe, c'est que la femme est toujours sous tutelle. Son état normal, c'est d'être sous tutelle. Donc, est-ce qu'elle peut donner librement le consentement au mariage ? Pendant très longtemps, ce consentement n'était valide partout que s'il était donné par un tuteur légal. Donc. Alors, ça peut être le père, l'oncle, le fils aîné. Si elle est veuve et qu'elle se remarie, ça peut être son fils aîné, voyez, etc. C'est toujours le cas dans certains pays, comme l'Arabie saoudite, on imagine facilement. Mais en fait, aujourd'hui, le plus souvent, le oui de l'épouse, elle peut le prononcer, alors qu'avant, non. Elle peut le prononcer, mais il doit être confirmé par un représentant désigné pour la circonstance. Oui, un représentant homme, bien entendu. C'est le cas en Algérie. En Algérie, on avait cru à une modernisation du code de la famille en 1984. Le Parlement algérien avait voté adopté un nouveau code. Eh bien, non, ils ont maintenu cette règle sous peine de nullité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le oui donné par un tuteur, ben non, voilà. Et l'âge légal de l'épouse, quel est-il ? Alors, normalement, enfin, un peu partout, il varie entre 15 et 18 ans, sauf, il y a une exception notable, c'est en Iran, après la révolution iranienne, en 1979, l'ayatollah Khomeini, hein, vous savez, a rétabli un âge qui existait avant, un âge minimum qui existait avant, c'est l'âge de 9 ans. Donc, oui, c'est comme ça encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, une fille peut être épousée à 9 ans. Tout ça, pourquoi ? C'est parce qu'on se base sur un exemple donné par Mahomet. Mahomet a épousé Aïcha, je vous ai donné son nom au début, sa préférée, alors qu'elle avait 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Donc, il faut imiter Mahomet. Mahomet est décrit dans le Coran comme le beau modèle, vous voyez, à plusieurs reprises, donc digne d'imitation. Et c'est ainsi. Alors, donc, vous voyez qu'en islam, il n'y a pas de sacrement, oui, mais on se marie pour obéir à Dieu. C'est un acte lié à la religion. On se soumet à sa volonté. Comme vous le savez, je pense tout ce que le mot islam veut dire soumission. Mais ça a des conséquences quand même importantes par rapport à notre conception du mariage. Ce que je veux dire, c'est que la recherche du bonheur du conjoint, l'oblation réciproque, le don, sont des concepts étrangers à la conception islamique du mariage. Mais bien entendu, les sentiments ont leur place dans cette relation. On ne peut pas le nier. D'ailleurs, le Coran parle de la tendresse entre les époux aussi. Mais, différence considérable, il n'y a pas la notion de conjugalité dans le mariage musulman. La conjugalité, c'est admirable lorsqu'on y pense, c'est le reflet de l'alliance de Dieu avec l'humanité, voyez. Ça, c'est propre au christianisme. Seul le christianisme a la notion de conjugalité pour le mariage. En islam, non, ce n'est pas le cas. Voilà, ça je vous l'ai dit. Mais alors, j'ai dit que le Coran reconnaît des liens de tendresse entre époux, il parle même des liens de miséricorde, très bien. Le problème, c'est qu'il y a aussi un verset où Dieu demande aux maris de châtier leurs femmes. Je vous lis le verset. C'est Dieu qui est censé parler à l'impératif. Donc, admonestez celles dont vous craignez l'infidélité. Il suffit de craindre, simplement. Reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les. mais ne leur cherchez plus querelle si elles vous obéissent. Voilà. Alors aujourd'hui, la casuistique a une place considérable dans le droit musulman. Vous n'imaginez pas tous les cas précis de la vie qui servent de sujet de délibération. Si on a le temps, je vous donnerai un exemple tout à l'heure que j'ai vécu en Égypte, inouï. Alors aujourd'hui, maintenant, il y a des juristes qui disent, le mari peut frapper la femme, d'accord, mais attention, il y a des parties du corps qu'il ne faut pas frapper. Voilà, c'est pas dans le Coran, mais on dit ça. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Hein, voilà. Et puis, autre chose aussi, l'épouse doit se tenir en permanence à la disposition de son époux. Le verset du Coran, il est terrible. Dieu dit aux hommes, vos femmes sont pour vous un champ de labour, allez à vos champs comme vous le voudrez. Voyez, la femme ne peut pas se refuser à l'homme, en aucun cas. Mais voyez quand même que le plaisir sexuel n'est pas désapprouvé, ni pour l'homme, ni pour la femme. Il est même exalté, on pourrait dire, et la femme, donc, y a droit. Alors maintenant, il y a des pays où les femmes souffrent lorsqu'on pratique l'excision. Vous savez ça, hein. Alors l'excision, attention, ce n'est pas une pratique islamique. Ça existait avant Mahomet, donc c'est une pratique païenne, si vous voulez. Mais le problème, c'est que Mahomet ne l'a pas interdite. Hein, et il en a pris acte, tout simplement. Il n'a pas légiféré non plus, mais voilà. Donc elle continue d'être pratiquée dans des pays musulmans. Il y a quelques années, au temps du président Sadat en Égypte, son épouse, Jihan, qui voulait vraiment faire, qui a fait beaucoup d'efforts pour améliorer la situation de la femme égyptienne, elle a combattu l'excision avec beaucoup de force. Mais je sais que dans certaines régions d'Égypte, elle continue à être pratiquée. Et même chez nous, paraît-il, en France. Alors voilà, clandestinement, bien sûr. Mais... Donc en fait, si vous voulez, je reviens à la situation de la femme au sein du foyer, elle est pleinement considérée lorsqu'elle est mère. Et le Coran, d'ailleurs, c'est un beau passage là, demande le respect dû aux parents. Il insiste sur les sacrifices consentis par la mère de la conception au sevrage de l'enfant. Ce que je dois souligner aussi, je crois que c'est important, c'est que le mariage et l'enfantement pour la femme est si important parce que c'est un moyen d'accroître l'umma. L'umma, O-U-2-M-A, c'est la communauté mondiale des musulmans, voyez. Alors, j'ai l'habitude de dire, enfin c'est une réflexion personnelle, normalement la femme ne porte pas les armes en islam, mais elle contribue à l'augmentation numérique de l'umma par l'enfantement. Donc l'enfantement, c'est le djihad des femmes, si vous voulez. Hein, le mot djihad veut dire faire effort pour la cause de Dieu. La cause de Dieu, c'est l'islam, bien sûr. Alors, quand une femme est stérile, qu'est-ce qui se passe? Cette situation est difficile et douloureuse pour les femmes, il faut bien comprendre ça. C'est souvent considéré comme un signe de malédiction divine, voyez. C'est douloureux, c'est sûr. Hein. Je connais un exemple, si on a le temps, je vous en parlerai. Un exemple qui m'est très proche, d'ailleurs. Alors, j'ai mentionné l'absence de conjugalité. Eh bien, cette absence de conjugalité, on la vérifie aussi à travers la polygamie, qui est permise par le Coran, je pense que vous savez tous ça. Mais je vous cite le verset. C'est encore Dieu qui parle à l'impératif. Il parle aux hommes. Épousez les femmes qui vous plaisent, 2, 3 ou 4. La suite est intéressante, je vais développer. Mais si vous craignez de n'être pas équitable envers celle-ci, alors n'en prenez qu'une ou les esclaves que vous possédez. Bon. Alors la question des esclaves, on n'en parle plus trop, bien que l'esclavage continue à être pratiqué dans des pays d'Afrique, comme le Soudan, le Mali, la Mauritanie. Hein. Et puis il est aussi pratiqué à Daesh, en Irak, en Syrie, on l'a vu hein, ces dernières années. Daesh n'est pas un État, hein, on sait bien, mais les gens de Daesh le pratiquent. Donc ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie du verset. Épousez les femmes qui vous plaisent, 2, 3 ou 4, mais si vous craignez de n'être pas équitable envers celles-ci, alors n'en prenez qu'une seule. Donc, la polygamie est autorisée, mais il y a une condition qui est mise par Dieu. C'est l'équité entre les épouses. Cela, concrètement, veut dire que le mari doit réserver un traitement équitable, égalitaire, entre toutes ses épouses, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan affectif. Alors, pour répondre à cette exigence, c'est surtout le plan affectif, c'est sûrement ça qui est le plus difficile à observer que le simple fait d'entretenir des femmes. Hein. Il est demandé au mari de donner à chacune de ses femmes, mettons un homme qui a 4 femmes, il donne une nuit à chacune, à tour de rôle, voyez. Et lorsqu'il y a un mariage qui intervient dans le cadre d'un foyer déjà polygame, la dernière épousée, elle a droit à toute une semaine, les nuits de toute une semaine, voyez. Après, on retrouve le cycle habituel. Alors ça, un autre verset très intéressant concernant la polygamie. Dieu dit, vous ne pourrez pas être équitable envers vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Vous voyez, il a posé la condition de l'égalité en termes matériels et affectifs. Et puis, il dit, vous ne pourrez pas être équitable envers elles, même si vous en êtes soucieux. Alors, c'est intéressant qu'il y ait ça, quand même, ça donne une ouverture. Et c'est ce verset, en effet, qui sert de point d'appui à des musulmans qui militent pour la suppression de la permission polygamique. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans le droit ? Le droit classique dans l'islam et la plupart des législations contemporaines maintiennent cette permission polygamique. C'est peut-être aussi par désir d'imiter Mahomet. Je vous l'ai dit, hein, il a été polygame. Selon la tradition, il a eu entre 9 et 11 femmes. Il y a des divergences, non ? C'est ainsi. Aïcha, vous savez, son épouse préférée, lui disait, enfin dans la tradition, selon la tradition, « Toi, tu es privilégié par rapport aux autres. » Elle faisait partie de ce harem, hein, parce que tu es le prophète de Dieu. Elle acceptait ça, vous voyez, joyeusement. Et voilà, donc dans la plupart des pays, la législation maintient la permission polygamique. Mais il y a des évolutions qui se sont produites au cours des dernières décennies, notamment en Turquie. Lorsque Atatürk, au début du XXe siècle, a créé la République turque, il a aboli la permission polygamique. Et puis, plus récemment, le président Bourguiba, premier président de la Tunisie indépendante, il a été président à partir de 1956, il a aussi aboli la polygamie. Aujourd'hui, en Tunisie, un homme n'a absolument pas le droit d'épouser plusieurs femmes, sinon il est passible de sanctions pénales, vous voyez ? C'est intéressant de le dire aussi. Je reviendrai sur le cas de la Tunisie après, parce que c'est un pays quand même qui évolue dans certains aspects. Alors ailleurs, il y a des atténuations qui ont été apportées par le droit des pays concernés. Je vous donne trois exemples différents, voyez, pour vous aider à comprendre ça. Par exemple, en Syrie, le contrôle du juge est nécessaire pour vérifier les capacités financières du mari. Donc, un homme ne peut pas épouser plusieurs femmes s'il n'a pas les capacités financières pour entretenir ses différentes épouses. Le juge vérifie ça. Après, le deuxième exemple, c'est l'Égypte et le Maroc. Dans ces deux pays, la première épouse, elle peut faire insérer dans le contrat du mariage une clause de monogamie. Cette clause est la suivante. Il est dit dans le contrat que si le mari épouse une autre femme, eh bien, elle a le droit de demander le divorce. Voyez. Alors, mais il faut que ça soit inscrit dans le contrat dès l'origine. Alors, cela dit, il y a des pays comme l'Indonésie, qui passe pour un pays très progressiste, on dirait, c'est pas un pays où l'islam est la religion d'État, l'Indonésie, mais c'est le pays au monde où il y a le plus grand nombre de musulmans, hein. 200 millions de musulmans à peu près, l'Indonésie se définit comme monothéiste sans autre précision. Et pour les musulmans, la polygamie est permise dans ce pays, voyez. Et aussi au Liban, ça peut vous surprendre, mais au Liban c'est ainsi, puisque chaque communauté religieuse dans ce pays gère son statut personnel en fonction de sa propre loi, voyez. Les chrétiens, donc évidemment, ont une loi qui se réfère à l'évangile dans toute leur communauté chrétienne, mais les musulmans ont le droit d'appliquer la charia, donc musulmane. C'est pour ça, chez les sunnites et chez les chiites au Liban, on peut pratiquer la polygamie, elle est donc légale. Et puis, il faut noter aussi qu'il y a des intellectuels musulmans qui maintiennent que cette permission polygamique, elle est justifiée par des arguments naturels, c'est ce qu'ils disent, je mets naturel entre guillemets. Par exemple, une femme stérile, ben, il est normal que son mari, qui veut des enfants, épouse une autre femme, ou plusieurs autres. La ménopause aussi, c'est un cas qui valide la polygamie, la maladie de l'épouse. Et là, j'ai découvert ça en lisant, il y a quelques années, un livre sur l'islam et la femme, écrit par le frère de Tariq Ramadan. Vous connaissez tous Tariq Ramadan, bien sûr. Son frère, il est moins connu. Moi, je connais les deux. Hani, H-A-N-I, il est le recteur de l'Institut de la Grande Mosquée de Genève, vous voyez. Et dans un livre sur l'islam et la femme, où il vantait d'ailleurs le système islamique, je vais y revenir après, eh bien, il disait, voilà, il y a des circonstances où il est normal, légitime, que le mari soit polygame. Alors bien sûr, là où je reviens à ce que je vous disais au tout début, on peut toujours dire aux musulmans, mais enfin le premier couple était monogame. Pourquoi vous n'imitez pas cette source, quoi. Alors maintenant, voyons, la fidélité dans le couple, elle n'est requise que de l'homme. Excusez-moi. La fidélité n'est requise que de la femme, puisque l'homme peut être polygame, on l'a vu. Et oui, ah oui, je voulais faire une remarque là, une réflexion. Il y a chez les musulmans, on entend souvent des musulmans qui disent, mais nous, notre système, il est meilleur que le vôtre en Occident, parce que, excusez-moi, je veux vexer personne, mais on entend souvent ça. En Occident, les hommes trompent leurs femmes, ils ont des maîtresses. Excusez-moi, messieurs. tandis que nous, c'est légal, voyez. Le fait d'avoir, voilà. Alors, ils justifient cette pratique par ce qu'ils appellent l'hypocrisie des lois et des mœurs occidentales. Alors, je termine la polygamie. Aujourd'hui, il y a un changement qui intervient aussi, c'est qu'elle est moins pratiquée que pendant longtemps, parce que les conditions du monde moderne ne sont pas compatibles toujours avec la... Bien sûr, en Arabie, il n'y a pas de problème, les princes sont tous des femmes, comme, autant qu'ils en veulent d'ailleurs. Mais alors, on parle aujourd'hui de polygamie successive. Voilà, un homme épouse une femme, il est plus content, il la répudie, il en épouse une autre. Polygamie successive, vous voyez, pas conjointe, si vous voulez. Alors, c'est là le moment de parler de la répudiation. La répudiation permet donc ces unions à répétition. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mariage est un contrat, d'accord, un acte juridique. Donc, comme tout contrat, le mariage est un acte révocable. Il est à l'initiative du seul mari, on peut bien comprendre ça. Alors, qu'est-ce que le Coran et l'islam enseignent là-dessus ? Mahomet, dans la tradition, aurait dit... C'est la rupture, la répudiation si vous voulez, elle est l'acte licite, le plus abominable. Mais elle n'est pas déconseillée dans le Coran. Le Coran dit ceci, si les époux se séparent, il prend acte de la séparation, Dieu les enrichira tous deux de son abondance. C'est étrange comme verset. Hein. Et puis il y a 20 versets dans lesquels le Coran légifère d'une manière extrêmement précise les conditions de la répudiation. En fait, la répudiation pour le mari, c'est un droit discrétionnaire. Il n'a pas à se justifier. Et normalement, il n'est pas impérativement tenu à indemniser l'épouse lésée par la répudiation. Vous voyez, alors, là aussi, il y a des exceptions. Il y a des pays qui contrôlent par la justice, hein, par les tribunaux, ce qu'il en est exactement pour que les femmes ne finissent pas à la rue. Alors maintenant, plaçons-nous dans le cas où un homme aurait agi par colère. Ça peut arriver. Parce que, vous savez, dans la tradition, pour répudier la femme, l'homme n'a qu'à dire « Tu n'es plus mon épouse, tu n'es plus mon épouse, tu n'es plus mon épouse. » Trois fois. Il le fait enregistrer, et puis c'est tout. Alors, bon, ça peut être un coup de colère, une mauvaise humeur, Dieu sait quoi encore. Il peut désirer reprendre sa femme. Alors, le Coran évoque cette situation. C'est étrange. Et donc, en ces termes-là, « Si un homme répudie sa femme, elle n'est plus licite. » Vous voyez, licite, toujours, c'est le droit hein, qui prévaut. « Elle n'est plus licite pour lui, écoutez bien, tant qu'elle n'aura pas été mariée à un autre époux. » Autrement dit, une femme répudiée, si son mari veut la reprendre, cette femme doit épouser un autre homme. Et le mariage doit être consommé avec le second, vous voyez, oui. C'est comme... Il y a même des hommes qui ont comme métier marieur. Oui, oui, c'est, au Proche-Orient, c'est comme ça que ça se passe souvent. Et alors, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y a cette réglementation terrible. Quand même, pour l'homme, c'est humiliant, vous voyez, le mari qui a répudié sa femme. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pour limiter au maximum la pratique de la répudiation. Parce qu'il faut bien dire que la répudiation met la femme dans un état d'instabilité, d'insécurité permanente. Du jour au lendemain, elle peut être chassée du domicile, hein, de la maison. Tout ça, c'est quand même... intéressant de voir qu'il peut y avoir des atténuations posées. Alors, je cite là un auteur algérien naturalisé français, c'est un journaliste qui vit à Paris, Slimane Zeridour, il a la dent dure contre l'islam, il a écrit un livre, Le voile et la bannière, où il est très sévère, et il dit, la répudiation, c'est la plaie des sociétés islamiques, vous voyez. Alors maintenant, je termine avec le mariage. C'est un peu long, excusez-moi, mais je crois que c'est important. Est-ce qu'on doit voir dans le mariage islamique une situation enviable pour l'homme, comme on l'affirme parfois ? On dit souvent, en plaisantant, ben, l'homme il a tous les droits, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, il peut les répudier, etc. On entend ça. Il faut faire attention. D'abord, ne pas se moquer, parce que c'est quand même c'est grave. Hein. Alors je dirais que malgré la supériorité de l'homme sur la femme, malgré sa position dominante qui fait de lui le maître, malgré les avantages, entre guillemets, que le mariage est supposé octroyer à l'homme, il n'est pas sûr que le musulman trouve dans cette forme de nuptialité un authentique épanouissement personnel. Je sais de quoi je parle en vous disant ça. Donc, faisons attention de ne pas porter des jugements trop hâtifs, vous voyez. D'ailleurs, le signe le plus facile à retenir pour accréditer ce que je viens de dire, c'est que la pratique de l'homosexualité masculine est très répandue dans les milieux musulmans, alors qu'elle est strictement interdite. On peut dire que la femme, elle est blessée, bien sûr, quand elle doit partager son mari avec plusieurs femmes, même une seule. Et elle devient souvent tyrannique, vous voyez. Et alors le mari n'est pas heureux, il va chercher ailleurs. Voilà, bon, c'est ainsi. Alors, il y a aussi une autre chose encore à dire dans le cadre du mariage, c'est un autre aspect, mais il faut le signaler. C'est ce qu'on appelle en droit l'empêchement matrimonial. C'est-à-dire, en fait, Une musulmane n'a pas le droit d'épouser un homme qui n'est pas musulman. D'accord ? Le Coran est clair là-dessus, c'est Dieu qui parle, Dieu parle au père de famille. En ces termes, ne mariez pas vos filles à des polythéistes associateurs. Les polythéistes, ce sont les païens, les associateurs, ce sont les chrétiens qui sont coupables d'associer au Dieu un deux autres divinités. C'est la Trinité. Hein, voilà. Quand vous lisez associateurs dans le Coran, c'est les chrétiens. Donc ne mariez pas vos filles à des polythéistes associateurs avant qu'ils croient. Autrement dit, le fiancé d'une musulmane, s'il veut l'épouser, il est obligé d'apostasier la foi et de prononcer la shahada, parce qu'il est évident qu'une femme ne peut pas être dominée par un infidèle, ça serait encore une atteinte au principe de la supériorité de l'islam, surtout que le mari est censé donner la religion aux enfants, dans la vision musulmane. Ce n'est pas, la femme n'a rien à dire à ce sujet. Par contre, un musulman a le droit d'épouser, mettons, une chrétienne, puisque c'est lui qui donne la religion aux enfants. Donc il y a une forme de protection, si vous voulez. Mais il faut savoir aussi, moi je connais des exemples très précis de chrétiennes qui ont épousé des musulmans, des chrétiennes en plus croyantes, ferventes, eh bien elles ont subi les conséquences. Par exemple, leur belle famille, et surtout si elles vont s'installer dans un pays musulman, j'ai vu ça surtout au Maroc, eh bien la belle famille leur dit, mais essaie de les empêcher d'aller à l'église par exemple, puis elles peuvent être très loin aussi. On fait pression sur elles et on leur dit, si vous devenez veuve, vous perdez tout droit à l'héritage de votre mari, parce que c'est vrai. Voilà, alors donc c'est quand même, il y a des risques aussi, voilà. Alors juste, je termine cette partie-là, la question de l'inégalité de la femme par rapport à l'homme, il faut mentionner aussi l'inégalité en matière d'héritage, tout le monde en a entendu parler je crois de ça. Dieu dit dans le Coran, Dieu se met en scène, Dieu vous ordonne d'attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles, voyez. Donc la fille n'hérite que de la... C'est comme ça. Depuis quelques semaines, en Tunisie, il y a un groupe de juristes que je connais, d'ailleurs, je les ai rencontrés, ils veulent obtenir du Parlement tunisien l'amélioration de cette situation et qu'une loi soit votée pour établir l'égalité en matière d'héritage. On va voir. Hein. Alors c'est pareil, l'inégalité aussi, on la retrouve dans le témoignage en justice. Le Coran réglemente aussi la question en ces termes. C'est Dieu qui parle encore à l'impératif. Demandez le témoignage, il s'adresse au juge. Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins. Ainsi, c'est la suite qui est intéressante. Ainsi, si l'une des deux femmes se trompe, l'autre lui rappellera ce qu'elle aura oublié. Pauvre femme. Voilà, bon. Ah oui, alors en revanche, ça il faut bien, il faut toujours être le plus équilibré possible, dans le Coran, rien n'interdit à une fille de recevoir une éducation identique à celle du garçon, bien que dans certains pays, ça ne soit pas le cas. Par exemple, chez les talibans, en Afghanistan, c'est impossible. Rien n'interdit à la fille d'aller à l'université. Je vais vous raconter une petite anecdote intéressante. Même en Arabie Saoudite, les femmes peuvent aller à l'université. Oh, tant mieux, hein. Mais il y a quelques années, il y avait un professeur égyptien qui avait perdu son travail en Égypte. Il était musulman, sunnite. On lui a proposé, on lui a fait une offre d'emploi pour aller enseigner dans une université à Riyad, capitale de l'Arabie. Il a accepté le poste. Stupéfait, il a vu qu'il ne pouvait pas s'adresser à ses... Ils sont dans des amphithéâtres différents, bien sûr. Mais il ne pouvait même pas leur parler personnellement parce que les cours destinés aux filles, c'était par écran de télévision. Vous voyez, il n'avait aucun contact concret avec ses filles et ses étudiantes. Alors, il s'est mis à réfléchir. Il a écrit un livre que j'ai lu. Et il s'est dit, mais c'est ça l'islam ? C'est pas dans ce pays qui se veut le modèle de l'islam ? Ben non, il est parti aux États-Unis et il est devenu chrétien maintenant. Oui, voilà. Bon, mais c'est intéressant de savoir ça, oui. Et aussi, les femmes, en principe, en tout cas dans le Coran et dans la Sunna, rien n'interdit aux femmes de participer aux affaires de la cité. Hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même bien des préjugés qui sont portés contre... Il y a une phrase qu'on entend beaucoup dire dans les pays musulmans, celui qui confie le pouvoir à une femme, le pays ira à sa perte. On l'avait entendu au Pakistan avec Benazir Bhutto, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, qui a été assassiné d'ailleurs. Alors aujourd'hui, et ça c'est quand même, il y a des progrès, hein, les femmes adultes, même mariées, elles occupent une place de plus en plus importante dans le monde du travail. Et elles peuvent d'ailleurs se baser sur l'exemple de Khadija, la première femme de Mahomet, qui était chef d'entreprise, hein, comme je vous l'ai dit, donc elle avait bien un emploi. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler du voile islamique, ça aussi c'est un aspect important qui est l'objet de pas mal de fantasmes ou d'autres, mais enfin, c'est un sujet délicat aussi. Souvent, en Occident, on présente le port du voile comme simplement le signe d'une appartenance à une religion comme les autres. Ben, les musulmanes, ben, ça fait partie de leur religion qu'elles portent le voile, et puis voilà. Mais vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce que dit le Coran à ce sujet d'abord ? Alors, il y a trois versets dans le Coran auxquels les musulmans se réfèrent pour justifier le port du voile par leurs femmes. Je vous les lis les trois. Dit, c'est Dieu qui parle, dit aux croyantes, le mot croyant et croyante, c'est toujours les musulmans dans le Coran. Dit aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer que l'extérieur de leurs atours, de rabattre leur voile sur leur poitrine. Dit-leur encore de ne pas frapper le sol de leurs pieds pour montrer leurs atours cachés. Un peu surprenant, mais bon. Deuxième verset. Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur voile. C'est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensées. Et le dernier, ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, c'était Mahomet donc, sans avoir obtenu la permission d'y prendre un repas et sans avoir attendu que le repas soit préparé. C'est la suite qui est intéressante. Quand vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, faites-le derrière un voile, cela est plus pur pour vos cœurs et pour leur cœur. Alors là, il y a trois fois le mot voile, voilà. Mais ça pose un problème de traduction. C'est les traductions en français qui donnent ce mot de voile. Or, dans les trois versets que je viens de citer, le mot n'est pas le même. Le mot, en fait, ne veut pas dire voile, voyez. Dans le premier, le mot qui est choisi, c'est rimar en arabe, qui veut dire tout ce qui cache, indistinctement. Dans le deuxième, c'est le mot jilbab, qui désigne un ample vêtement qui couvre les habits du dessous. Un vêtement très enveloppant. Et puis, dans le troisième, c'est hijab. Le mot hijab veut dire rideau ou teinture, séparation. Mais voyez, ce qui est frappant, c'est que dans aucun des trois versets, il n'est question des cheveux et de la tête, voyez. Donc, le Coran pose un principe, mais il ne décrit pas un type de vêtement islamique à imiter. Dans tous les cas, la tête, les cheveux, les oreilles et le cou ne sont pas mentionnés. Et pourtant, les femmes qui se voilent, bien, c'est bien ça qu'elles privilégient, hein, et c'est parce que les pays musulmans, selon les traditions, selon les systèmes juridiques, etc., ont décidé qu'il en était ainsi. Et dans certains pays, nous avons le voile intégral aussi, hein, avec le visage caché, ce qu'on appelle le niqab dans les pays du Proche-Orient arabe, et la burqa en Afghanistan, avec les mains gantées. Hein. En fait, le principe, c'est qu'aucun brin de peau ne doit être visible. Alors chez nous, c'est le mot hijab qui prévaut, hein, qui est le foulard sur la, qui cache le cou et les oreilles et la tête. En fait, il ne faut pas qu'un cheveu dépasse. Peu importe la couleur, souvent il est sombre, mais pas nécessairement. Il peut être porté sur une robe ample ou sur un pantalon. Alors, il y avait un auteur, celui que j'ai cité tout à l'heure, celui qui a écrit une thèse sur la question de la femme en islam, il a écrit ceci dans sa thèse. « Entre le hijab et la burqa, il n'y a qu'une différence de degré et non pas de nature. » Je dis ça parce que c'est ce qu'il y a derrière qu'il est important de bien comprendre. Bien sûr, ce vêtement fait partie de la religion musulmane, mais ça n'a rien à voir avec la petite croix que des chrétiens ne portent, moi d'ailleurs. D'accord, ce n'est pas simplement un symbole religieux. Moi, je ne veux pas non plus décrier systématiquement le port du voile. Les femmes qui portent une mantille à l'église, je vais pas. C'est même plutôt fait pour me plaire. J'ai beaucoup voyagé au Proche-Orient, en Irak, beaucoup de chrétiennes se couvrent les cheveux, mais légèrement, voyez. Et puis n'oublions pas que la Vierge Marie était voilée aussi, mais il n'y avait pas ce côté serré, voyez. Enfin, vous savez très bien. Donc, ce qui est gênant, c'est la suggestion et le non-dit, si vous voulez, du sens du voile. Alors, c'est ça dont je vous parle maintenant. Le voile est un bouclier destiné à mettre à part le corps féminin, le mettre à l'abri de la concupiscence des hommes. Alors, ça doit nous interroger. Quel est le regard que les musulmans ou que l'islam porte sur l'homme? Un homme incapable de se maîtriser dès qu'il voit une femme, si elle n'est pas comme ça complètement phagocytée, eh ben, il ne peut plus être maître de lui. C'est quand même incroyable. Il faut penser aussi au regard que l'islam porte sur l'homme, pas seulement sur la femme, hein, que nous n'apprécions pas trop, c'est vrai, mais l'homme aussi quand même. Et puis alors il y a aussi, moi je me rappelle une fois au Caire, j'allais à un rendez-vous, je passe devant un collège, lycée, qui ouvrait, c'était la fin des cours, j'ai vu sortir une nuée de jeunes filles voilées, très joliment d'ailleurs, à la mode pharaonique un peu, c'est très, très chamarré, très joli, et puis avec des jeans moulants. Alors où est la pudeur dans tout ça, vous voyez? On a l'impression, voilà, qu'il y a une obsession sur la chevelure. Et c'est vrai que, ça il faut le souligner, c'est que la liberté et la sécurité des femmes musulmanes sont conditionnées par le port de cet habit spécifique. Normalement, il est obligatoire à partir de la puberté, c'est Mahomet qui l'aurait dit. Alors souvent, une femme voilée, surtout quand elle est jeune, elle est considérée comme prête à marier, vous voyez, elle est mariable, voilà. Alors de toute façon, la conception musulmane du voile est ségrégative. Elle postule la méfiance envers la femme. Au-delà du vêtement et de la pudeur, on a l'impression que cet impératif entend réintroduire dans l'univers mental musulman la conception traditionnelle qui postule la méfiance envers la femme. Il y a ce verset terrible dans le Coran. Dieu dit « Ô vous les croyants, vos épouses et vos enfants sont pour vous des ennemis, prenez garde ». Bon, bien sûr, le mot ennemi, on peut l'imaginer comme la tentation, mais ça peut être aussi pris au sens littéral du texte. Moi, je voudrais juste renvoyer à l'exemple de Jésus dans l'Évangile. Nous voyons bien les relations vraies qu'il a eues avec les femmes. La chasteté était le gage de la vérité des relations que notre Seigneur a eues avec les femmes. Donc, il en résulte que la mixité entre adultes est très mal vue. J'ai évoqué la question de cette université en Arabie. Mais la mixité entre adultes, je veux dire, est source potentielle de péché, d'où la ségrégation entre les sexes qu'on observe partout dans les sociétés à majorité musulmane, dans les transports, dans les salles de cours, sur les lieux de travail, mais et même dans les mariages. Vous savez que dans les mariages musulmans, après la conclusion du mariage, il y a une fête, et bien les hommes sont dans une pièce, les femmes dans une autre pièce. Où est la fête? Non. Voilà, c'est comme ça, la méfiance. Et un mot sur le voile intégral, la signification du voile intégral, c'est une réflexion importante, ça, je crois. Moi, ça me suggère que le voile intégral, c'est la négation de la femme comme personne, comme une personne. Parce que c'est quand même bien par le visage que nous entrons en relation avec nos frères en humanité. Les sentiments transparaissent dans le sourire, les pleurs, la tristesse, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un obstacle à la vie sociale et à l'intégration, bien sûr, des musulmans chez nous. J'ai retenu là ce témoignage qui m'avait assez bouleversée. Une musulmane qui avait été obligée de porter le niqab, le voile intégral, en France. Hein. Alors elle recevait plein de félicitations. Elle racontait ça dans un livre. Elle recevait plein de félicitations de ses proches. Vous êtes une musulmane parfaite, on lui disait. Et elle-même, voilà, elle a dit ce qu'elle ressentait. Pour moi, il n'y avait plus rien. J'étais devenue rien, sans visage, sans nom, sans volonté, sans désir. Elle est parvenue à se libérer de ce voile oppresseur, comme elle le dit, en souffrant beaucoup, mais voilà. Donc, je dirais, pour terminer, que nous, les chrétiens, nous avons sans doute un rôle à jouer. D'abord, il faut remettre la vertu dans la cité, en Occident, la vertu dans tous les sens du terme. Il faut retrouver la pudeur, la vraie pudeur, hein, je veux dire, l'équilibre entre l'homme et la femme. C'est capital, l'équilibre entre l'homme et la femme. Il faut montrer aux musulmans ce qu'est le vrai modèle dans nos rapports. Et alors, nous pourrions, à ce moment-là, une fois que nous redevenons ce que nous devons être, nous pouvons accompagner, aider, conseiller amicalement les musulmanes avec qui nous vivons maintenant pour leur montrer quelle est vraiment la place de la femme dans le plan de Dieu, voyez, selon la sagesse de Dieu, et non pas comme elle est présentée dans les médias, dans les mœurs libérales et dans certaines lois qu'on nous impose aussi. De ce point de vue, l'islam, chez nous, a deux avantages, on pourrait dire. Il est à la fois interpellation et occasion pour nous d'aider les musulmanes et les musulmans en général aussi, les hommes aussi peuvent réfléchir également, bien sûr, les aider à trouver une conception équilibrée concernant la femme dans la société et le rapport entre l'homme et la femme. Voilà, il y a un programme là.
Être femme en terre d'islam, vous venez d'entendre l'intervention d'Annie Laurent, journaliste, écrivaine, politologue, spécialiste de l'islam, intervention enregistrée en l'église de Saint-Jean-de-Luz le 20 août 2019.
Regard de femme. Vous venez de suivre une conférence enregistrée en l'église de Saint-Jean-de-Luz lors des mardis de l'été 2019, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.